La ville de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, a organisé le 20 novembre 2024 les rencontres de l'éducation artistique et culturelle qui ont rassemblé plus de 300 professionnels, enseignants et intervenants culturels. L'occasion pour Cadécole de s'intéresser aux enjeux de l'éducation artistique et culturelle, donnant la parole aux professionnels impliqués. Dans cet épisode, Marie-Christine Bordeaux, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université Grenoble-Alpes, aborde les liens entre l'école et l'éducation artistique et culturelle.
Ces dispositifs existent officiellement depuis les années 80. Ils avaient été déjà bien expérimentés dans les années 70. Et moi, je fais partie, et quelques-uns d'entre vous, dans cette salle, d'une génération qui a eu de l'éducation artistique avant qu'il y ait de l'éducation artistique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dispositif, il n'y avait pas de mission au ministère de l'Éducation nationale. Et pourtant, il y avait de l'éducation artistique parce que c'était l'enseignant qui incarnait ce rapport à la culture. Soit parce qu'il pensait que c'était son rôle, soit parce qu'il jouait ce rôle-là dans la cité à ce moment-là, soit aussi parce qu'il était passionné en amateur d'un art et qu'il le transmettait. Et ça, c'est bien avant les années 80. Ce rôle de l'instituteur, comme on le disait à l'époque, qui est aussi un rôle, et de l'institutrice, qui est aussi un rôle culturel, il faut savoir le revendiquer. Votre tâche aux uns et aux autres, elle n'est pas facile, parce que l'éducation artistique, elle n'est qu'une ressource culturelle parmi d'autres, et je dirais même parmi bien d'autres, pour l'enfant, puisque, et ça c'est peut-être la différence entre les enfants que vous avez dans vos classes et puis l'époque où moi j'étais enfant, où je dirais que les perspectives culturelles n'étaient quand même pas très très nombreuses. Il y avait la culture de la famille qui était assez raccord avec la culture des institutions culturelles et ce qu'on pensait être la culture dans la société, puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et puis il y avait la culture enfantine, vous savez, les jeux, mes chansons, qu'on se transmet d'enfant à enfant sans le truchement, la médiation des adultes. Aujourd'hui, les enfants sont exposés et même surexposés à la culture. Il y a la culture de l'école, la culture de la famille, la culture des groupes de pairs, la culture des médias, les industries culturelles et tous les moyens que l'on a pour accéder à des cultures différentes. Et donc, par l'éducation artistique, il faut apprendre aussi quelque chose de plus, c'est apprendre à se situer par rapport à ces différentes cultures et à en faire des appuis, des ressources pour inventer son devenir culturel. Et son devenir culturel, c'est pas uniquement d'aller fréquenter l'opéra quand on sera adulte, c'est peut-être de savoir s'autoriser, oser aller à des endroits où, a priori, on peut se dire qu'on n'a pas été prédestiné. On a parfois, entre universitaires, des débats sur des concepts qui seraient vieux, qui seraient dépassés et qui seraient plus d'actualité. Et il y a des débats sur le concept de capital culturel. Il y en a qui disent capital culturel, c'est plus un concept intéressant. Alors à la base, c'est quoi ce concept? Eh bien, c'est l'idée que la culture va servir au maintien des positions dominantes dans la société ou va servir à ceux qui n'ont pas ces positions dominantes d'atteindre ses positions dominantes. Et aujourd'hui, il y a une vision beaucoup plus pluraliste de la culture en disant, bon, l'opéra, le rap, le karaoké, etc., tout ça, c'est la culture. OK, il n'empêche que cette notion de capital culturel, je pense que autant les artistes et les professionnels qui interviennent dans l'école que les professeurs des écoles savent à quel point c'est important pour les enfants. Parce que la culture, c'est trois langages, c'est l'aisance dans le langage verbal, l'aisance dans le langage non-verbal, c'est-à-dire la communication, qui est quand même au fondement de la vie sociale, et l'aisance dans le langage symbolique, c'est-à-dire être capable de sortir du langage symbolique dont on a hérité pour s'intéresser à d'autres langages symboliques. Moi, j'enquête beaucoup plutôt auprès de professionnels. Et récemment, j'ai enquêté auprès des élèves et l'écart est parfois vertigineux, mais il est très intéressant. Je vous donne un seul exemple. J'enquête dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble, qui est un quartier d'éducation prioritaire, auprès de jeunes adolescentes. Et elles font les imbéciles, elles ricanent, c'est un focus group. Faire des focus group avec les préados, c'est pas facile. Et donc, ça ne se passe pas bien, elles ricanent entre elles, enfin, j'arrive vraiment à rien sortir. Et puis, à un moment donné, l'une d'entre elles me dit, alors que je les interrogeais sur leur rapport au théâtre, puisqu'elles avaient eu une éducation au théâtre, me dit « Moi, madame, grâce à ce projet, je connais personnellement le directeur du conservatoire. » Et elle me dit ça avec un petit air de défi que j'ai beaucoup aimé. Parce que finalement, elle m'a parlé de la pluralisation des liens sociaux. Vous voyez, moi, je le dis avec de manière très, très compliquée. Elle me l'a dit de manière très simple. Elle était très contente, en fait, de connaître quelqu'un d'important grâce à ce projet. Et ce n'était pas tout à fait raccord avec la manière dont l'enseignante m'avait raconté le projet, dont l'artiste m'avait raconté le projet, dont le chef d'établissement m'avait raconté le projet. Mais elle, au fond, qu'est-ce qu'elle disait ? Finalement, grâce à ce projet, je suis sortie de mon quartier, j'ai rencontré des gens différents et sans ce projet, je ne les aurais jamais rencontrés.
Vous venez d'écouter Cas d'école, la web radio de l'Institut français de l'éducation, dans un hors-série consacré aux rencontres de l'éducation artistique et culturelle de la Courneuve. Vous pouvez trouver toutes les références sur le site ife.ens-lyon.fr/cas d'école. À bientôt !